Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de M. Blaise Ndala, qui est né au Congo, pays qu'il quitte en 2003 pour poursuivre des études en Belgique, des études de droit, hein, qu'il a amorcé à l'époque à l'université de Kinshasa. Il émigre ensuite au Canada en 2007 et s'installe à Ottawa. Il publie « J'irai danser sur la tombe de Senghor » à l'Interligne en 2014, son premier roman qui a remporté le prix du livre d'Ottawa après avoir été finaliste à 4 autres prix littéraires, parmi lesquels le prix littéraire Trillium. Il poursuit l'écriture, il publie, mais on va lui laisser la possibilité de nous raconter tout ça. Alors, je rappelle aussi, c'est lui le président d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien. Monsieur Blaise Ndala, bonjour.
Bonjour et bonjour aux éditeurs.
Merci. Comment allez-vous ?
Très bien. On essaie de naviguer malgré toutes les péripéties qu'amène cette pandémie dont nous n'arrêtons pas de parler, hélas.
D'accord. Et dites-moi, de votre côté, la pandémie ne vous affecte pas trop à part les aléas que tout le monde subit ?
Pas trop, dans ce sens que j'ai la chance à la fois d'être entouré par ma petite famille, et virtuellement quand même, grâce à la technologie, à celle beaucoup plus grande qui est outre-Atlantique, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et puis d'autre part, j'ai aussi la chance d'avoir un espace relativement grand. Je ne suis pas cantonné dans un petit appartement de Toronto ou du centre-ville de Montréal. Mmh. Et ça me permet de pouvoir bénéficier donc d'un air beaucoup plus vivable et de parfois sortir dans mon petit jardin. Et ça change. C'est des détails assez mineurs, mais ça peut changer l'état d'esprit, la psychologie et tout ce qui vient avec cette solitude, cet enfermement, ce poids mental qui nous assaille depuis bientôt quoi, 6-7 mois déjà ?
Déjà, oui. Alors, je me permets de résumer en quelques lignes et votre carrière d'auteur. Donc, je parlais tout à l'heure de « J'irai danser sur la tombe de Senghor », qui a été traduit en langue russe également.
Oui. Hein,
et a été également remarqué par le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb, Palme d'Or à Cannes en 2006 avec Indigène, qui en a acquis les droits d'adaptation cinématographique. Est-ce que ça a été réalisé ?
Alors ça c'est la bonne question, je n'ai eu de cesse de dire depuis le début de ce projet que le temps cinématographique était beaucoup plus élastique que le temps de l'écrivain. Oh Dieu sait si le temps de l'écrivain est déjà élastique entre le premier jet sur l'écran et la dernière note de révision avec l'éditeur. Pourtant oui, le temps cinématographique est beaucoup plus long et pour ainsi dire, le projet a bel et bien commencé. J'ai rencontré Rachid Bouchareb au moins 5 fois depuis qu'on a signé ce contrat avec Interligne. Mmh. D'autant plus qu'il m'avait approché parallèlement pour coécrire avec lui le scénario du film à venir. Alors, sauf que avec la conjoncture que nous connaissons tous, on parlait tantôt de la pandémie, qui a une industrie qui est également très affectée par elle, c'est bien l'industrie du cinéma. Ça se passe à Hollywood et du côté de Los Angeles comme ailleurs. Les choses sont un peu figées pour l'instant. Je lui ai parlé à peu près un mois, on en reparlait, il était à Paris, il revenait d'Alger. Et puis il m'a dit voilà que les choses étaient malheureusement sur la glace pour un temps, mais qu'il gardait évidemment espoir qu'il continuait à faire ce qu'il avait à faire pour nous offrir dans les, je n'ose pas dire les mois, je vais dire dans les années qui vont venir maintenant, le film que nous attendons, et moi encore plus que d'autres, évidemment, impatiemment.
D'accord. Vous publiez en 2017 chez Mémoire d'un crié, Sans capote, ni Kalachnikov. Et donc, Mémoire d'un crié, Évent d'ailleurs, en 2019, et qui a remporté le combat national des livres de 2019 de Radio-Canada, et défendu par la journaliste d'enquête Marie-Claude Denis. Comment se sent-on lorsqu'on gagne ce combat des livres ?
Il y a évidemment une certaine fierté, on ne va pas le cacher, hein, tous les auteurs sont toujours ravis de voir ce genre de reconnaissance, même si par ailleurs on n'écrit pas pour les prix ni pour ce genre de concours, mais mm-hmm. C'était d'autant plus touchant en ce cas-ci que Il s'agissait d'un livre qui avait été d'abord, comme vous l'avez dit, brillamment défendu par Marie-Maude Denis, une journaliste d'enquête de Radio-Canada que l'on connaît, qui y a mis toute la passion, la fougue que je n'aurais peut-être pas pu y mettre moi-même, étant donné que j'avais eu l'occasion de défendre. Mais ce qui était très touchant, c'est qu'il s'agissait de vote des auditeurs hein, du magazine littéraire Puis Sonner de Fou, Puis Son Lit, sur une autre chaîne que tout le monde connaît. Et donc, les gens qui avaient, pour certains, lu les livres, pour d'autres qui en ont capté la substance à travers les débats qui se sont étirés sur pratiquement une semaine, à côté d'autres compétiteurs, entre guillemets, à côté d'autres livres de grande facture, le fait que les gens se soient montrés intéressés et adhérés au projet littéraire, esthétique et même philosophique qui venait derrière cette satire sociale, parce qu'il s'agit d'une satire sociale que s'encapote Kalachnikov, ça pour moi, ça représentait encore autre chose. Ce n'était pas, et je terminerai par ce point, c'est pas le texte qui va caresser, on va dire, le lecteur canadien dans le sens du poil. C'est peut-être même le contraire. C'est un texte qui met le doigt là où ça peut faire mal, de ce que j'appelle l'égo-charité, le rapport que nous, dans les sociétés occidentales, avons à l'égard de la pauvreté, de la détresse qu'on peut trouver au Congo, en Haïti, où j'étais quand j'ai terminé l'écriture de ce roman, ou ailleurs dans les pays du Sud. Vous que avez... ce texte qui peut être dérangeant, remuant, ait été porté ainsi par des milliers de gens qui, à travers le pays, ont voté au cours de cette émission. Ça, évidemment, ça m'est touché encore plus.
D'accord. Voilà. Et, bon, justement, vous avez mentionné Haïti, vous avez été chef de mission pour Avocats sans frontières Canada. Et dans quel contexte, brièvement?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme d'aucuns le savent, je suis fonctionnaire hein, au gouvernement fédéral ici à Ottawa. Je travaillais à l'époque au bureau de la commission, la commission de libération conditionnelle du Canada. Et avec les coupures qu'on avait connues il y a quoi, 4 ans maintenant, à peu près 5 ans, j'avais perdu mon poste. Donc, j'ai vu mon poste coupé. Et moi, je viens du monde des ONG des droits humains, aussi bien en Afrique qu'en Belgique où j'ai vécu. Et là, j'avais une opportunité, une fenêtre de dire, j'ai envie de renouer avec le terrain à l'international. Et Haïti a toujours été un pays, comme pour beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais, les anciens Aïrois qui avaient vu arriver de milliers d'enseignants haïtiens dans les années 60-70, j'ai toujours voulu aller tâter du doigt le pays du vaudou, le pays de tout ça, l'ouverture et de tous ces grands noms qui habitent nos imaginaires. Et là, Avocats sans frontières Canada m'en offrait l'opportunité en me recrutant. Ils avaient besoin d'un chef de mission pour aller diriger le projet en rapport avec les droits humains sur l'île, dans les Caraïbes. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai passé le concours, je l'ai eu. Et là, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis allé donc du côté de Port-Salut, Port-au-Prince, et toutes les villes charmantes, Petit Goave et autres, où j'ai passé dans près d'une année et à travailler. C'est en fait dans ces circonstances que je me suis retrouvé entre deux projets d'écriture catapultés pratiquement en Haïti.
D'accord. Et au fait, c'est extrêmement intéressant tout ça et qui m'amènera à vous réinviter pour qu'on parle en plus ample détail de ces activités-là. Alors, si je saute littéralement, hein, je change de sujet, parce que vous êtes aussi le président d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien. Qu'est-ce que ça vous a fait que vos collègues et vos pairs vous ont choisi pour être président d'honneur?
D'abord, c'était une grosse surprise. Hein. Québec, j'étais du côté de Pokégamon, si je ne me trompe pas, du côté de Témiscouata, en vacances, et je reçois donc ce message du comité d'organisation. Je me dis, il y a une méprise là, on doit se tromper. Je venais de le dire, hein, je suis parmi les derniers venus dans l'univers de lettres afro-canadiennes. J'ai publié mon premier roman en 2014, donc je m'étais dit, ouf, c'est quand même un grand honneur qu'on me fait pour une carrière relativement jeune, pour une bibliographie qui se limite à 2 livres. Donc je l'ai pris comme une reconnaissance, comme une sorte de coups de tape dans le dos. Mes pères, ceux qui m'ont précédé, ceux qui me voient, ceux qui me lisent, ceux qui estiment que ma petite voix peut les représenter, peut résonner en leur nom. Ils m'ont vu, ils m'ont repéré, ils me font confiance. Alors ils disent, tu vas porter un peu notre étendard le temps de ce salon. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Et je l'ai pris avec reconnaissance et avec beaucoup d'humilité, encore une fois, parce que parmi ceux qui m'ont précédé sur ces chemins, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs de haute facture qui ont produit des œuvres devant lesquelles je m'incline. Je ne citerai pas de nom, mais vraiment, ça a été un honneur que j'ai accepté avec gratitude encore une fois, et humilité.
D'accord. Alors écoutez, vous savez, en radio, le temps file, et donc nous aurons l'occasion de nous reprendre parce que j'estime et je pense que vous avez plein de choses à raconter. Je vous souhaite un bon salon, et puis, faites-nous honneur.
Merci en tout cas, merci pour l'invitation et j'invite les auditeurs qui le peuvent entre de nous rejoindre en ligne parce que la programmation est magnifique et nous allons essayer de décloisonner la parole, hein, c'est le thème de ce salon, pour pouvoir faire rencontrer les imaginaires, faire entrechoquer nos idées et en sortir aussi revivifiés que nous pouvons l'être.
Merci beaucoup. Bonne soirée.